Europe 1,
16h-18h, l'équipée sauvage.
Mathieu Noël.
Bienvenue sur Europe 1, vous écoutez l'équipée sauvage, très très sauvage aujourd'hui, limite punk. Oui, la grande compétition qui oppose chaque après-midi les meilleurs journalistes de la station, déjà bordélique en temps normal, risque carrément de virer au pogo cet après-midi vu qu'on reçoit la référence du rock en France, parrain de Rock in 1000, la deuxième édition du plus grand concert de rockers amateurs au monde, le 4 juillet prochain au Stade de France. Montez le son pour Philippe Manœuvre. Bonjour Philippe.
Bonjour Mathieu.
On est ravis de passer l'après-midi avec vous Philippe. Vous allez tout nous expliquer de cet événement Rock in 1000 au Stade de France. Mais d'abord tout simplement, comment c'est possible de faire de la musique à 1000 musiciens en même temps?
Ah oui, c'est la grande question. C'est vrai qu'on pose 1000 musiciens sur la pelouse, là où il y a d'habitude les joueurs de foot. On met les musiciens, hein, donc ils sont 380 batteurs, 240 bassistes, 300 et quelques guitaristes, 180 chanteurs et chanteuses, voilà, tout le monde est là. Et effectivement, la musique, c'est d'enfoncer, de taper. Normalement, un groupe, c'est 4 ou 5. C'est de taper à 4 ou 5 sur le même clou pour l'enfoncer plus loin, plus profond, plus fort. Et là, ils sont 1038 la dernière fois. Ils étaient 1038. Alors, eh ben, je vais vous le dire à tous, Mathieu et les auditeurs, il y a un petit casque. Ils ont tous un casque, vous voyez, comme voilà. Le petit casque Marshall. Ils ont leur casque dans lequel il y a un déclic électronique comme un métronome qui permet à 380 batteurs de tomber, bam.
Ça va être incroyable. On va parler de ce concert-événement, juste le temps de vous présenter mon équipe. Et attention, vendredi, ça a été un incident diplomatique. Pour la première fois en 124 émissions, j'ai fait la boulette.
Vous connaissez désormais le programme, l'équipe est sauvage, peut démarrer.
Alors Eva Rock lève le doigt d'entrée de jeu. Pourquoi?
Moi, vous ne me dites pas bonjour aujourd'hui.
Oh, je vous ai oublié.
Oh la honte.
Alors accueillons très chaleureusement l'inoubliable, la pièce maîtresse de notre dispositif, le cœur battant de cette émission, celle sans qui rien n'est possible. Eva Rock, bien sûr, bonjour.
Bonjour Mathieu, bonjour Philippe, bonjour à tous.
Comment j'ai pu vous oublier, Eva?
Et alors j'attendais ce moment, je me disais non, c'est pas possible, il va y avoir une vanne à un moment donné, il va me dire bonjour.
C'est
mais
la présence
non, ça
du public,
venu.
Vous savez, le vendredi ça me déstabilise moi le public.
C'est ça, bien sûr.
Je pourrais pas être au Stade de France, je perdrais mes mots.
Si je peux me glisser une tranche de jambon,
oui, allez,
Glan, c'est là.
De pain. Eva Rock, c'est un beau nom, c'est votre nom.
Oui, c'est mon vrai
ce
nom.
C'est pas un pseudo.
C'est mon vrai nom. Tout le monde me demande en me disant ah c'est chouette comme pseudo, mais non, j'ai la chance de m'appeler comme ça.
Et c'est déjà bien d'avoir un prénom. Tout à l'heure, si je n'oublie pas de vous lancer, vous nous direz Eva ce qu'on regarde et ce qu'on zappe à la télévision et sur les écrans. Mais d'abord, présentons à Philippe Manœuvre nos deux premiers concurrents du jour. Chacun vise la récompense que je tiens dans ma main, sorte de Pulitzer du pauvre, la couronne de chroniqueur du jour. C'est très simple, celui qui vous aura offert la chronique la plus intéressante repartira couvert de gloire comme Mick Jagger sautant dans la fosse de Wembley avant d'être porté en triomphe par la foule. Quant au perdant, il ressentira lui la même chose que Shine lorsqu'elle avait aussi sauté dans la fosse de Bercy, mais que la foule éparse n'avait pas amorti sa chute. Toujours, elle est notre assurance touriste, notre rustine, notre résine de pare-brise en cas de fissure. Quand Brian Jones a quitté les Rolling Stones, il a été remplacé par Mick Taylor. Et bien quand, dans l'équipée sauvage, Virginie Fulpin nous a fait faux bond, on la remplace par Eva Rock.
Mais
encore
oui.
Vous, Eva.
Je vais défendre le sujet de Virginie qui est coincée cet après-midi pour des raisons de coronavirus. Alors pas elle, en l'occurrence,
oui,
mais l'institutrice de sa fille. Donc elle est obligée de rester chez elle. Et je suis d'autant plus heureuse que je valide 1000 fois son sujet. La musique peut améliorer les performances sportives.
Mais
je vais essayer de vous le démontrer.
Vous validez, mais vous y connaissez quelque chose?
En performance sportive, oui, je vous le rappelle ou pas?
Oui, c'est vrai.
Merci.
Elle a battu Marie-Josée Pérec une fois la course
Merci.
À pied, c'est une autre histoire.
Merci.
À ses côtés, Philippe Manœuvre, on peut clairement parler d'erreur d'aiguillage. Avec son nom à particules, ses chemises Cyrillus et son look général de conseiller clientèle Groupama, on l'imagine plutôt chanter le dimanche à l'église avec ses 17 gosses qu'en train de prendre de l'acide sur la cuvette des toilettes du bus Palladium en marge d'un concert des Sex Pistols. Et pourtant, il nous l'a avoué un jour où il avait forcé sur le vin de messe.
J'ai été lead singer dans un groupe de rock.
Philippe, Mick Jagger a commencé par des études d'économie avant de virer rocker. Lui, il a fait le chemin inverse, ce qui, quand on y réfléchit, est encore plus rock'n'roll. Voici Axel de Tarlé, le Axel Rose du CAC 40.
Lead singer.
Oui,
ouais. Ça fait plus chic que
c'est
chanteur.
C'est très chic. Ouais. Oui, mais quand on entendra tout à l'heure l'extrait, je pense que vous ferez moins le mariole.
Ah ouais, il y a des preuves.
Ah oui.
On l'a poussé à chanter le jour dans la rédac, il l'a fait, on l'a enregistré au dictaphone. Alors Axel, de quoi vous nous parlez aujourd'hui?
Alors, ben justement, de musique, puisque les chiffres des ventes de musique, de streaming sont tombés la semaine dernière, et l'industrie musicale en France est remontée à son plus haut niveau depuis 10 ans. Elle renaît, on l'avait enterrée, cette industrie musicale.
C'est complètement reparti, en fait, l'industrie musicale.
Et c'est un... source d'espoir, parce qu'il y a beaucoup de secteurs qui souffrent en ce moment. La musique montre qu'on peut survivre sur Internet.
Allez, merci Axel. Et si vous êtes sage, oui, comme vous avez beaucoup insisté, on écoutera un extrait de votre tube Petit Terrien, extrait de cet album amateur, hélas jamais édité, de ce groupe jamais découvert, Venin, que vous aviez au lycée.
Le programme est donné. Alors,
ça, c'est sûr, oui. C'est sûr, ça, au moins, on ne peut pas vous l'enlever. L'équipe est sauvage peut démarrer.
Parotin, l'équipe est sauvage.
Vous jouez de la guitare, de la batterie, de la basse. Et si vous vous produisiez devant plus de 50 000 personnes au Stade de France, c'est ce que vous propose aujourd'hui notre invité Philippe Manœuvre, parrain et ambassadeur de la deuxième édition de Rock in 1000, le concert du plus grand groupe de rock amateur au monde. Plus de 1000 musiciens attendus. Et donc, nos auditeurs, Philippe, peuvent postuler ou c'est déjà trop tard?
Oh, c'est déjà un peu engagé.
Ah, c'est engagé,
hein,
là,
là,
ouais.
Là.
Il y a du monde.
Il y a eu 5000 postulants pour les 1000 places. C'est-à-dire que c'était assez merveilleux pour un musicien amateur. J'ai toujours ce cas que je raconte. Un vieux punk vient me voir là pendant les répétitions de la première édition. Il me dit, on a terminé avec mon groupe, on a terminé notre carrière au Secret Place à Montpellier. On avait dit à tous, c'est le dernier concert, il y avait 148 personnes, on était tellement contents. Mais il me dit là, j'ai ressorti ma guitare et je vais jouer pour 50 000 personnes au Stade de France. Mais c'est un moment de... Waouh, c'est la félicité absolue pour un musicien.
Ils jouent tous la même chanson.
Ah mais oui, en même temps, d'accord. Sinon ça n'a pas de sens. Axel.
Oui, Laurent Ruquier me dit, je croyais
chacun
que
jouait
chaque groupe passait par groupe.
Non.
Alors là, on aurait été à 1000,
c'est pas un tremplin rock.
Ils jouent tous ensemble la même chanson en même temps.
Et
c'est
alors,
le
quel
principe
type de chanson on va entendre?
Alors, la dernière fois, qu'est-ce qu'on a fait? You Really Get Me. Version Van Halen, les Stones, Jumpin' Jack Flash,
d'accord.
On a eu les White Stripes, on a fait les Foo Fighters, Nirvana, les Ramones, les Clash, les grands du classic rock, ceux qui nous ont fait des chansons en béton armé, des chansons indestructibles, quoi, nos hymnes à nous, tout ce qu'on entend depuis le début de l'émission, là, les Start Me Up, voilà, des morceaux... Quand vous les entendez, ils sont dans vos chromosomes, dans notre ADN de rocker à nous, les fans de rock. C'est nos hymnes nationaux.
Eva, on y va ou pas?
Ah oui.
Moi, ça me donne trop envie.
Ah
hein.
Oui, moi aussi.
Philippe Manœuvre est avec nous jusqu'à 18h.
Europe 1.
Et si la musique qu'on écoute avait un impact sur nos performances sportives? Ça expliquerait les mauvais chronos récents d'Eva durant sa préparation pour le semi-marathon de Paris. Forcément, c'est pas en écoutant ça que vous allez améliorer vos perfs, Eva. Vous allez donc nous expliquer que, bien choisi, la musique peut vous faire courir plus vite. Virginie Fulpin, qui devait être présente cet après-midi, avait quand même pris le temps d'enregistrer un petit mot fair play pour encourager son rival Axel de Tarlet, qui est aussi son aîné.
Bonne retraite, Bombasse.
Le temps est donné, à tout de suite.
L'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h, 18h, Mathieu Noël.
Vous écoutez l'équipe est sauvage, la grande battle des journalistes d'Europe 1. 2 heures de coups bas et de tirage de maillots entre nos chroniqueurs. Mais la compétition, aussi rude soit-elle, n'empêche pas l'éthique. Le respect de l'adversaire, le respect des concurrents. Axel de Tarlet ici présent et Virginie Fulpin qui devait être là cet après-midi le savent. J'ai du respect pour tous les journalistes et contrairement aux odieuses rumeurs qui circulent sur mon contenant, je n'estime pas que vous êtes tous interchangeables.
Si, là, il y a encore Axel et Virginie?
Non mais c'est pas grave, on s'en fout que ce soit eux ou d'autres, c'est juste qu'il y a du monde autour de la table.
Ah bah merci, c'est sympa.
Bref, il est temps d'entrer dans le vif de la compétition, ne nous arrêtons pas sur ce genre de détails.
Oh,
Philippe Manœuvre est notre invité arbitre du jour. Philippe, je vous demanderai attention et indulgence envers Eva Rock, puisqu'elle remplace au pied levé, on l'a dit, Virginie Fulpin. Alors Eva...
Alors heureusement que je connais un peu le sujet.
Vous connaissez un petit peu le sujet quand même,
rassurez
nos auditeurs.
On dit que la musique permet d'améliorer la performance sportive. Philippe, c'est assez intuitif, c'est vrai, la musique nous aide à être meilleur quand on pratique du sport. D'ailleurs, la Fédération internationale d'athlétisme a interdit le port de casque audio pendant les courses de fond comme le marathon, parce qu'ils assimilent cela
à du dopage
psychologique.
Ah,
exactement.
Vrai.
Alors c'est moins dangereux pour la santé que le vrai dopage. Enfin, ça dépend ce qu'on écoute. Partout, vous trouvez des playlists aujourd'hui pour faire du sport. La musique distrait, elle permet quand même de penser à autre chose qu'à la fatigue. Donc, on tient plus longtemps et on dépasse ses limites grâce à ce qu'on écoute, en partie en tout cas. Mais alors, la question c'est, qu'est-ce qu'il faut écouter? Virginie, elle a trouvé la chanson qui colle au sujet.
Ça pour pousser de la fonte, oui. James, je peux vous dire
les
c'est bon.
Les Daft Punk, ça marche ça.
Hein, ah bah oui.
Ça marche un peu plus. Mais en fait, le morceau le plus écouté en France pour faire du sport, c'est ça.
Ah bon?
Alors moi, je connaissais pas. Jack Jones. You Don't Know Me. Je sais pas, vous connaissez ?
Bah, j'ai dû l'entendre au club de gym, c'est vrai que
c'est ça. C'est ça, c'est un algorithme.
Ouais, c'est ça. Non, mais c'est un peu ça. Il y a un truc avec le rythme qui nous emmène en fait à allonger la foulée sans souffrir.
Excusez-moi, j'ai juste une question pour notre invité, qui est quand même une pointure du rock. J'ai une question pour vous. Est-ce que vous, à la première écoute d'une chanson, vous arrivez tout de suite à dire si c'est de la daube ou si c'est excellent ? Ou est-ce que, moi, parfois, il me faut plusieurs écoutes. Je me dis, tiens, la première fois, je n'ai pas fait attention, puis la deuxième fois.
Plusieurs écoutes. Oui, oui, il faut voir. Il y a des albums qu'on appelle difficiles, les disques cultes, il faut rentrer dedans.
C'est pas forcément catchy.
Ouais, c'est pas tout obligatoirement. Vous avez des musiques qui vous sautent dessus comme un petit chien fou, qui disent viens, etc. Bon. Et puis il y en a d'autres, faut rentrer dedans. Puis après, il y a un univers merveilleux qui se déclenche.
Ah, il faut quand même faire des efforts parfois. Pardon, Eva. Donc vous nous parliez de l'impact de la musique sur les performances. Ouais. Et c'est sur le rythme que les chercheurs travaillent essentiellement.
Oui, il y a des chercheurs croates et italiens qui ont travaillé sur les BPM. Les BPM, c'est les battements par minute. Ils ont demandé à 19 femmes qui ont entre 24 et 31 ans, qui sont des sportives du dimanche, de courir 6 km sur un tapis de course. Elles ont dû le faire 3 fois. La première fois sur un rythme lent, entre 90 et 100 battements par minute. Alors on en profite pour faire un blind test. C'était sur cette musique.
Jennifer Lopez. Il y avait un petit indice caché dans la chanson, vous avez vu, je suis
Jennifer From the Block. Voilà.
Donc, c'est exactement ça. Donc, premier morceau, les 19 femmes courent sur ce titre. Deuxième course avec un tempo moyen entre 130 et 150 BPM. Je ne fais pas l'offense.
Non, là,
Michael.
Et là, on sent quand même qu'au rythme, ça commence à aller un peu plus vite. Et la troisième sur un tempo élevé entre 170 et 190 BPM.
Ça, c'est trop. Là, on ne court pas bien là-dessus.
Rihanna, Umbrella. Alors, évidemment, sans surprise, c'est sur Rihanna qu'elles ont couru le plus vite.
Moi, j'aurais pas dit.
Mais il y a quand même un gros bémol, parce que plus la musique est rapide, plus elle vous fait donc oublier la douleur, ça c'est bien, mais elle vous aide aussi à vous dépasser, et la déchirure musculaire, elle vous pend au nez si vous accélérez trop le tempo. Voilà, alors on court en musique, mais on fait attention à ce qu'on écoute.
Mais dis donc Eva, on a l'impression que c'est vous qui avez écrit
cette
chronique.
Exactement, t'es une speakerine Eva en fait. Tu t'es approprié le travail.
Là, c'est vicieux.
T'es pas une journaliste.
Je ne sais pas si c'est un compliment ça.
Non, c'est parce que je connais bien le sujet pour courir, et donc j'ai essayé plusieurs playlists, et là, pour tout vous dire, j'ai essayé de courir sans musique, pour voir la différence.
Et alors ?
Eh bien, au fond, je préfère.
Sans musique ?
Oui, parce que vous concentrez plus sur votre souffle. Ben, il a été annulé le semi-marathon, je vous rappelle hier. J'ai un peu les boules.
Mais hier, vous êtes dans une conversation WhatsApp que nous avons, vous nous avez fait croire que vous avez couru quand même. C'était faux ? D'accord, c'était
un mytho. Il y a des gens qui ont fait un semi-marathon off.
Oui, seul. Ah, mais seul. J'ai cru qu'Eva en faisait partie, mais visiblement non.
Alors,
c'était une grosse mytho. Chacune de mes interviews est un événement. Intensément bossé en amont, riche en citations dûment vérifiées sur les sites de référence Wikipédia et célébritépotin.com, elles sont toujours l'occasion de grandes révélations. Philippe Manoff fera-t-il mieux en matière de souvenirs trash que Jean-Louis Aubert, l'invité le plus rock qu'on ait reçu avant lui ? Ça va pas être facile.
Au coin de la rue, on voit deux gars habillés en Asie qui étaient en train de se sodomiser sur une poubelle. Quoi.
Philippe Manoff pourra-t-il s'aligner ? Philippe, vous avez 3 minutes pour convoquer vos meilleurs souvenirs underground. On se retrouve juste après Serge Gainsbourg, Requiem pour un con sur Europe 1. Requiem pour un con, c'était Serge Gainsbourg sur Europe 1. Serge Gainsbourg, qui est quelqu'un de particulier dans votre vie, Philippe Manoff.
Ah bah oui. Oui, Serge Gainsbourg, c'est mon maître absolu. Enfin, il m'a tout appris, quoi. Il m'a appris que quand on arrive au restaurant, on prend sa serviette, on la met sur les genoux. Il m'a appris que quand quelqu'un vous rend un service dans l'industrie du spectacle, on appelle, on prend son téléphone, on dit « je voudrais te remercier de ce service que tu m'as rendu ». Enfin, c'était les règles, il m'a confié les clés, les règles du show business.
Et petite question, comment vous avez rencontré Serge Gainsbourg ?
Pour aller faire une interview, j'étais journaliste.
Il vous a pris sous son aile.
Et voilà. Mais en même temps, j'ai eu un coup de bol extraordinaire parce que moi, je suis arrivé pour l'interviewer au moment où il allait sortir son album reggae. L'album n'était pas sorti. Moi, j'avais eu le test pressing, j'avais écouté tout l'été dans mon bureau à Métal Hurlant et je voyais que tous les gens écoutaient et disaient « mais c'est incroyable, c'est génial, quelle idée de fou ». Et tous les gens qui passaient me disaient ça quand ils me disaient « mais qu'est-ce que c'est que ce truc ?» On connaissait Bob Marley, évidemment, etc. « Mais c'est Gainsbourg qui chante du reggae, ouah !» Donc j'arrive chez lui et je lui dis « franchement, monsieur, votre disque, il est génial. Tous les gens qui l'ont entendu dans mon bureau le disent, ça va être un succès colossal. » Et jusque-là, il vendait toujours 30 à 50 000. 50 000, c'était vraiment le maximum qu'il ait fait avec Melody Nelson. Mmh. Qui était son chef-d'œuvre absolu, mais ça ne s'était pas vendu du tout. Il n'arrivait pas à trouver l'oreille du public. Et là, cet album sort, mon interview dans Playboy paraît, et il en vend 2 millions. Alors donc forcément... il s'est dit, le gamin... J'étais un des gamins. Il y avait moi, il était très, comment dire, il était malin, intelligent, brillantissime. Et comme il avait 50 ans à l'époque, il s'était trouvé une bande de petits poissons pilotes. Il y avait Bayon de Libération, Philippe Manœuvre, Étienne Dao, François Ravard, peut-être quelques autres que j'oublie, pardon à eux, mais on était... Voilà, et donc quand il se disait... quand il pensait à un changement de musique, par exemple, quand il a fait son virage funk, c'est vrai que tout le monde lui disait « Serge, écoute Chic, c'est ça qui se passe en ce moment. » Enfin voilà. Et comme on était trois, quand il y avait les trois des gamins qui lui disaient la même chose, bon, ça va, il faisait son virage funk. Il était très, très...
C'est vachement intéressant, parce que non seulement il vous a pris sous votre aile, mais vous lui avez donné des idées. Donc c'est ça qui est
incroyable. C'était un échange.
Europe 1.
À suivre, on présente souvent Philippe Manœuvre comme une référence absolue du rock, un puits de science. Or, s'il était si fortiche que ça, il n'aurait pas laissé passer le groupe underground des années 80, Venin, dont le lead singer n'était autre qu'Axel de Tarlé, devenu expert économique d'Europe 1, par défaut bien sûr. Pas un seul article dans Rock and Folk, un véritable scandale, car Venin, c'était potentiellement plus puissant que Téléphone. Comme Axel nous l'a prouvé l'autre jour lorsqu'on a enregistré à son insu dans la rédac, ce n'est qu'en se réentendant quelques jours plus tard qu'il a compris en direct pourquoi Téléphone avait percé et pas eux.
Nous étions des chiens, ça ne leur faisait rien de nous cramer.
C'est vrai, c'est pas facile de s'entendre, hein. Surtout moi, oui.
Souffrance partagée. À tout de suite, Axel.
L'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h-18h, Mathieu Noël.
Dans l'équipe sauvage, chaque après-midi, on étoffe notre culture générale, on rit, mais parfois, on vit aussi de belles rencontres. Cet après-midi, celle de deux géants du rock. Philippe Manœuvre, notre invité, qui pendant plusieurs années a recherché la nouvelle star en vain, jusqu'à ce jour béni de mars 2020 où il a rencontré Axel de Tarlé. On le sait peu, mais si Kurt Cobain s'est suicidé, c'est parce qu'il avait entendu la maquette de Petit Terrien.
Si.
Historiquement, c'est factuellement vrai. Premier single de Venin, le groupe qu'Axel avait au lycée. Un album était en préparation. Il devait même y avoir des chansons en anglais, comme nous le confiait récemment Axel.
Donc j'avais fait une chanson en anglais. Et donc j'avais quand même un vocabulaire de quatrième. Donc j'ai pris mon petit dictionnaire. Et c'était l'histoire d'une ville qui prenait feu. Je cherche sur mon petit dictionnaire, pompier, et je recopie mal. Je me trompe, au lieu de recopier à pompier, je recopie à pommier. So the apple trees are coming here, but it's too late, the fire is free. On aurait dit du Dylan, mais c'était une erreur de traduction.
Oh mon Dieu, mais il faudrait ressortir les cassettes de tout ça, Axel.
Mais
non, parce que
je pense
mythique.
Aux autres membres du groupe qui seraient furieux de voir ainsi... notre réputation traînait dans la boue.
Mais au contraire, on
il y en
fait
a, il est juriste à la Cour européenne de l'AE. Je ne sais pas s'il écoute Europe 1.
Il a encore plus mal tourné que vous. Alors, Philippe Manœuvre, nous allons écouter maintenant Axel de Tarlé, l'économiste et non pas le rocker, heureusement. Vous nous parlez quand même de musique.
Exactement, parce qu'il y a les chiffres du SNEP qui sont tombés la semaine dernière, donc c'est le syndicat
national des éditeurs photographiques.
Voilà, qui montre que le marché de la musique en France a retrouvé son plus haut niveau depuis 10 ans grâce au streaming. Vous savez, il y a de plus en plus de Français qui s'abonnent à ces plateformes d'écoute musicale. Il y a plus de 9 millions d'abonnés à des plateformes payantes, hein, qui payent tous les mois. Voilà. Donc en hausse de 18%. Alors, c'est quand même un fantastique message d'espoir parce qu'il y a beaucoup de secteurs, la presse et d'autres, hein, qui sont laminés par l'arrivée d'Internet. Et la musique a été le premier secteur qui a été touché de plein fouet par le piratage et Internet. Eh bien, ça montre que sur Internet, on peut trouver un modèle payant et rentable pour la musique. Les gens acceptent de payer pour regarder des séries télé, pour regarder du foot et pour écouter de la musique.
Mais comment ça s'est passé? Parce que moi, en plein cœur de ma jeunesse, on était passé à la musique dématérialisée, mais qui était gratuite en fait. Il y avait tout un problème de droit d'auteur évidemment énorme. On disait, les gens n'accepteront jamais plus de payer pour quelque chose qu'ils trouvent gratuit.
Mais il se passe la même chose pour le cinéma. Hein. Si vous faites une offre simple, claire, efficace, regardez Netflix.
Sans
pub, regardez, les gens acceptent de payer s'il y a une belle offre et ils piratent moins du coup. D'ailleurs, même parce qu'on a le même phénomène pour la télé. Hein.
La piraterie a quand même été très violemment attaquée par le gouvernement américain. Voilà.
Oui,
par la piraterie, vous avez d'abord le risque que votre ordinateur soit bloqué par des virus. Et puis que vous receviez une lettre recommandée d'Adopi qui vous dise votre fils vient de recopier. Donc à un moment, les parents ont dit attends, tu veux un abonnement, tu veux ta musique, pour le prix prix d'un single, 5 euros, on t'es abonné,
avoir un abonnement, oui.
Et t'as 9 millions de titres en disposition. Alors, c'est merveilleux.
Mais ça doit être un peu moins rentable que la grande époque du disque pour les artistes.
Ah, évidemment.
Oui, bien sûr. Les artistes sont les grands truandés dans l'histoire, évidemment.
Alors, non, mais vous avez raison. Le marché de la musique est quand même divisé. Le point haut, c'était 2002. On était à 2 milliards. Là, on est à 700 millions. Hein, donc,
j'ai connu une époque où le chiffre d'affaires de la musique... c'était autant que le cinéma, la littérature, les jeux vidéo réunis. Bon, aujourd'hui, c'est les jeux vidéo qui sont en tête. Voilà.
Loin devant.
Alors, l'autre bonne nouvelle que montrent ces chiffres, c'est que si vous regardez le top 20 des artistes les plus écoutés en France, eh bien, il y a 19 Français. Si vous regardez le top 3, en 3, c'est Johnny, notre Johnny national.
Toujours ?
Ouais. En 2, c'est Nekfeu. On écoute un petit extrait.
Dans l'univers, il y a des milliards de vies sur Terre, 7 milliards d'êtres humains, peut-être 3 milliards de filles, mais c'est toi que je veux.
Et en numéro 1 de musique française, c'est Angèle.
C'est belge.
Alors voilà, justement, je l'ai fait exprès.
Mais Johnny aussi.
Et Johnny aussi. Et Jacques Brel aussi. Mais en fait, il vous explique que comme c'est produit par des Français, c'est une production française, donc c'est considéré comme un artiste français. Voilà. Et la troisième bonne nouvelle, c'est qu'autrefois, le marché de la musique, c'était quoi ? C'était l'Europe de l'Ouest et les États-Unis et un peu le Japon. La pratique du streaming, elle est mondiale. Ce qui fait d'ailleurs que vous avez des choses assez bizarres, c'est que du coup, la musique française se retrouve écoutée dans des pays lunaires. Et par exemple, qui a été numéro 1 aux Pays-Bas ? Eh bien, c'est Aya Nakamura avec Dja Dja. On écoute numéro 1 aux Pays-Bas.
Aya Nakamura, dont vous nous disiez, Philippe, elle a tout le bien. Dont
pour moi, c'est le talent à l'état pur. Quoi. Ouais. Elle a inventé un langage, elle a inventé des mots. Moi, mes enfants, 3 ans et 8 ans, que je salue ici, Ulysse et Lily Rock, ils adorent Aya Nakamura. Il a une chanson qui s'appelle Cookie, mais ils la chantent, ils la connaissent par cœur. C'est un nouveau langage. C'est à la fois c'est africain, tribal, urbain. C'est quelque chose, il y a un talent énorme. Je ne sais pas ce que Gainsbourg aurait pu faire avec Aya Nakamura, mais la raison ballotte en son cratère.
Mais c'est ça qui est fascinant avec Philippe Manœuvre, c'est que moi, j'aurais imaginé Philippe Manœuvre avant de vous connaître, plutôt du genre à dire c'était mieux avant quand on a connu les Rolling Stones et tout ça. Et là, réussir à s'enthousiasmer pour Aya Nakamura.
Mathieu, les Rolling Stones, ils tournent cet été.
Oui, ils sont toujours là.
Ils sont indestructibles et on est heureux. Et nous, on est contents, le rock continue. On le prouve quand on remplit le Stade de France avec Rock in Mille. Il y a un grand public pour le rock, mais quand on voit un talent comme Aya Nakamura arriver, chapeau bas, quoi. Bravo à ceux qui l'ont signé.
Voilà, et pour faire une toute petite conclusion économique, donc ce grand retour de la musique, c'est une aubaine pour le numéro un mondial de la musique, qui était Universal Music, qu'on avait un peu enterré. Et vous savez qu'Universal Music, c'est français. Ça appartient à 100% à Vivendi. Donc, voyez,
Cocorico, donc.
Voilà, petit coup de chapeau à Monsieur Bolloré, qui a fait le bon investissement.
Ah oui, voilà. C'est courageux de saluer Bolloré sur l'antenne d'Europe 1. C'est très, très rock. Vous êtes vraiment... Vous êtes resté complètement punk.
Ah, ça va, j'aime le tarlé. J'ai vu que la musique, ça marchait pas, donc j'ai essayé de me rapprocher des puissants, vous voyez.
Il chapote un concert dantesque dont vous serez peut-être 1000 musiciens amateurs au Stade de France pour une soirée rock le 4 juillet prochain. Philippe Manœuvre passe l'après-midi sur Europe 1.
Europe 1.
Elle a perdu 119 de ses 125 dernières confrontations avec l'invité. Eva Rock se prépare pour notre séquence culte du quiz. Quiz qui, vu le sadisme de ceux qui le conçoivent, ne pourra pas porter aujourd'hui sur autre chose que le rock. Philippe Manœuvre, un conseil à Eva avant de vous défier ?
Pas de guimauve, va droit à l'os et tu seras gagnante.
Il y a peut-être un double sens là-dedans. À tout de suite.
16h-18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage. Mathieu Noël.
Il est le parrain d'un événement d'ampleur mondiale le 4 juillet prochain au Stade de France, le retour de Rock in 1000, ce concert géant qui va réunir 1000 artistes amateurs au Stade de France. Non, amateurs mais doués. Philippe Manœuvre, c'est vous le parrain, le grand ordonnateur de cette... Vous faites quoi ? Vous faites chef d'orchestre ? Vous faites quoi ce soir-là ?
Moi, je suis le MC, c'est-à-dire que j'arrive, je parle entre les morceaux.
Okay. Voilà. Vous chauffez la salle.
Il y a un chef d'orchestre qui s'appelle Alex et qui donne un peu le tempo à follement, comme il se doit dans un truc rock'n'roll.
Philippe, s'il devait rester qu'un seul groupe, j'ai l'impression que pour vous, ça serait quand même les Stones. Vous les avez traqués toute votre vie. C'est le groupe le plus important.
Parce que c'est la lignée des bad boys of rock. Voilà, les méchants garçons, ceux qui font un doigt à la caméra, ceux qui font la moue sur les photos, ceux qui ne sont pas contents d'être là, ceux qui rêvent d'un autre monde, c'est les Stones. Et
c'est pas Vianney ?
Ah non, c'est nos grands frères, quoi. Voilà, c'est eux, quoi. C'est eux qui ont eu le culot Je vais vous raconter une anecdote incroyable. Mon premier rédacteur en chef, Philippe Paringot, que je salue, à Rock & Folk, il était allé voir les Stones en 1964, un Musicorama européen à l'Olympia. Bon, il y avait plein d'artistes en première partie, dont Pierre Perret. Et incroyablement, Pierre Perret fait la première partie des Stones à l'Olympia. Ça s'est pas mal passé pour lui, d'ailleurs. Il paraît que,
le zizi avec...
voilà. Pas encore le zizi, mais déjà, bon, déjà beaucoup d'abattage. Et les Stones arrivent. Et là, la salle, les mâchoires tombaient par terre. Ils n'avaient pas de petits costumes. Tous les groupes, comme les Beatles,
oui, ils étaient en costume.
Ils avaient tous un costume quand ils montaient sur scène. Costume doré, costume lamé, costume noir. Et les Stones, ils arrivent en costume de ville, avec des blue jeans, des cols roulés, des vestes en daim. Les gens se sont dit « Oh, mais donc ils vivent le rock tout le temps !» Et les Stones, c'est notre mode de vie à nous.
Et j'ai une question là-dessus, est-ce que c'était travaillé ou pas ça ? Aujourd'hui, tout est encadré par la com, comment vont s'habiller les chanteurs sur scène. Est-ce que les Stones, eux, par exemple, quand ils arrivaient sur scène comme ça, c'était eux qui s'étaient dit « On vient comme ça parce qu'on s'en fout » ?
C'est leur manager.
C'est leur manager,
manager qui était plus jeune qu'eux. Andrew Oldham avait 18 ans, les Stones avaient 20 ans. Il leur avait dit « Pas de costume, c'est n'importe quoi, nous !» Et c'est lui qui avait inventé le concept « On va être les rivaux des Beatles ». Je l'ai interviewé. Il m'a dit « J'étais totalement gonflé. Les Beatles étaient les maîtres du monde. Nous, on était un groupe totalement aspirant. On avait vendu 5000 disques. Et j'arrive en disant « On va être les rivaux des Beatles ». Et là-dessus, tous les journalistes de la planète disent « Attention les Beatles, il y a vos rivaux là, les Rolling Stones ».
Merci
et
les
du coup, chaque fois qu'on parlait des Beatles, on citait les Stones. Et du coup, mais c'était un génie.
Alors, mon cher Philippe Manœuvre, sur le papier, le duel qui suit est déséquilibré. D'un côté, vous, la mémoire du rock. De l'autre, quelqu'un qui s'appelle Rock, certes, mais qui, du point de vue des goûts musicaux, est plutôt resté bloqué à Tino Rossi. Je veux bien sûr parler de notre niçoise favorite, qui connaît plus la bourride que l'ouride. Eva Rock va à présent vous défier sur un quiz rock'n'roll. Attention tout de même. Attention, Philippe, à ne pas la prendre de haut. Comme elle l'avouait dernièrement à Nathalie Dessay, elle a une connexion forte avec le rock.
Oui, j'ai eu une liaison avec Dick Rivers pendant des années, Nathalie Dessay.
Ah d'accord, pardon, je ne savais pas.
Oui, pardon, oui, on est désolé pour vous. Philippe, principe ultra simple, je vous fais écouter des versions rock de grands tubes, à vous de retrouver les originaux. Le ou la plus rapide des deux marque un point, c'est parti. Premier extrait, c'est le groupe Daisy Driver, mais ils chantent quoi ?
Un peu largué, un peu seul sur la tête, les mains tendues,
Marc Lavoine.
Oh !
Et ben voilà !
Une bonne réponse des Maroc. Bah oui, mais non, mais je veux, je veux le titre. C'est quoi le titre ?
Parking des Anges ? Non, c'est pas ça. Non, non, merde.
Les yeux revolvers.
Les yeux revolvers. Oh, dommage, Eva, vous n'avez pas marqué un point, mais non, vous êtes coiffé au poteau par notre invité.
D'ailleurs, je ne sais pas si c'était à moi de répondre ou c'est à Philippe ou si on répond
c'est
ensemble.
C'est un quiz, on répond.
Alors, réfléchissez. Essayez de réunissez vos neurones, convoquez-les à un grand rassemblement. Voilà, c'est en même temps, c'est un blind
test. J'en ai pas des neurones.
Deuxième extrait, c'est les Dragon Force, un groupe de power metal de Londres. Retrouvez la version originale.
C'est un truc des Spice Girls ou de...
Non. Mais c'est très très connu.
Oui.
C'est mondialement, monstrueusement connu. C'est dans un film. C'est la musique d'un film. D'un des films les plus connus, qui a fait le plus d'entrées box-office.
C'est
Il y a un bateau qui coule.
Titanic.
Oh, vous avez vu, Philippe, je lui ai donné un micro-indice et tout de suite elle a trouvé le film. Quoi.
Mais oui,
le disque
Dion,
plus, qui a fait le plus d'entrées de tous les temps maintenant, c'est La Reine des Neiges 2.
Ouais. Hein,
c'est plus Titanic, va falloir reposer vos compteurs, les
qu'est-ce
amis.
Qu'est-ce qui se passe, Philippe, quand vos enfants écoutent La Reine des Neiges 2 ?
Oh, bah, je suis content pour
vous
eux.
Vous coupez pas le son.
Mais non, c'est magnifique. Ma fille, elle a 3 ans, elle écoute ça. En même temps, bon, c'est mignon, c'est joli.
Je vous dis que ça lui passera.
Oui, ça lui passera.
Troisième extrait, les amis, c'est le groupe NoFX, un groupe punk californien.
Oui.
Que chante-t-il ?
Les Champs-Elysées, mais en version anglaise. Joe Dassin.
Oh oui, bonne réponse des Maroc. Un point pour les Maroc.
Mais comment NoFX a trouvé Joe Dassin ?
Mais oui, c'est ça, quoi. Je savais même pas que ça existait une autre version des Champs-Élysées.
Bon, il en existe plusieurs. Mais celle-ci est pas mal. Hein.
Ah ouais.
Quatrième extrait, c'est le groupe Real Big Fish. Ils font du ska punk californien.
Oula.
Quelle est cette reprise ?
Non, c'est AA. C'est AA. Oui.
De qui ?
Quoi, de qui ?
Le groupe.
C'est le groupe AA.
Autant pour moi. Quel est le titre de la chanson ?
Ben oui, t'as comme dit.
Un point pour Axel de Tarlé. Allez, bah, je donne le point. Vous avez trouvé, c'est très bien.
Ah, c'est de qui?
Oui, en plus, je me suis humilié en direct. Bon, alors d'accord. Allez, on le coupera pas. Cinquième et dernier extrait. Exceptionnellement, oui, d'habitude, quand je dis quelque chose de ridicule, on le coupe. Cinquième et dernier extrait, c'est un sympathique groupe de death and roll allemand. Je ne sais pas ce que c'est que le death and roll. Ils sont de Stuttgart et ça s'entend un peu. Quelle est cette reprise?
Britney Spears.
Non,
c'est plus vieux.
Oui.
I Can Dance.
Oui, de David Bowie.
I Can Dance.
De David Bowie,
non,
I Can
non,
Dance.
Non.
Ah, Phil Collins. Oh, Axel de Tarlé, je crois que vous méritez un point parce que vous avez répondu deux fois.
Deux fois, ça fait deux points. Hein.
Qui remporte ce quiz? C'est Axel qui remporte le quiz, la première de l'histoire de notre quiz. C'est le journaliste qui remporte le quiz. Bravo. Il recrute peut-être même parmi vous les futurs rockers qui se produiront sur la scène du Stade de France le 4 juillet prochain dans le cadre de Rockin' Mill. Philippe Manœuvre est notre invité jusqu'à 18h.
Europe 1.
Les Césars ont eu lieu vendredi, tout le monde en a parlé, alors qu'on a assez peu parlé du Festival de cinéma de Berlin qui a eu lieu ce week-end. Notre correspondante en Allemagne, Hélène Kohl, nous raconte l'histoire de ce petit festival qui aimerait bien devenir grand. Et puis Berlin, c'est une ville évidemment un peu particulière pour notre invité, le mélomane Philippe Manœuvre, puisque c'est là qu'est né ce courant musical, hélas trop vite disparu, la Sambartung, la rencontre décapante de la samba et de l'allemand.
L'équipe est sauvage sur Europe 1, 16h-18h, Mathieu Noël.
Il n'y a pas que le rock dans la vie, Philippe Manœuvre, il y a aussi le cinéma. Chaque jour, dans l'équipée sauvage, nous prenons l'air en région, et parfois même en Europe, pour découvrir ce qui s'y passe, humer l'air du temps. Or, en Allemagne, ce week-end se tenait le Festival du film de Berlin. Bonjour Hélène Kohl.
Bonjour à tous.
Alors, il n'y a pas que les Césars dans la vie, il y a aussi la Berlinale.
Oui, effectivement, et c'était la fin de la Berlinale ce week-end, le grand festival de cinéma de Berlin qui a quand même 70 ans. Mais c'est le festival le plus mal aimé du monde parce que déjà, février à Berlin, on ne fait pas trop de dessins. Pour les décolletés, les talons hauts sur le tapis rouge, il faudra repasser. Ici, les stars viennent en manteau ou en robe à col roulé, comme Bérénice Bejo samedi, elle faisait partie du jury cette année. Ensuite, il faut le dire, partir à Berlin avec un film, c'est se disqualifier un petit peu pour Cannes. Et donc les réalisateurs et les producteurs ont souvent tendance à décaler un peu les sorties des films ou la fin des tournages, etc. pour ne pas rater le créneau de la croisette. Et la Berlinale, donc malgré ses 70 éditions, mais elle a quand même du mal à récupérer des grands castings à paillettes et des grands noms. Mais alors les Berlinois, ils ont pris un petit peu le contre-pied depuis environ 15 ans. Ils ont essayé pendant longtemps d'avoir des grandes têtes d'affiche, puis depuis 15 ans ils se sont dit on sera le festival sérieux et engagé, merci de garder votre futilité et vos fêtes pour Cannes.
Résultat ?
Alors résultat, samedi soir pour la troisième fois en 10 ans, c'est un film iranien qui a reçu l'Ours d'or ici, un film sur la peine de mort par un réalisateur, Mohamed Rasoulov, interdit par le régime et qui a mis toute son équipe en danger de mort tout simplement en les embarquant dans son aventure. Oui. Mais dans la compétition, il y avait aussi par exemple une fresque taïwanaise de 2h07 sans aucun dialogue.
Oula.
Et aussi une expérience de reconstitution en conditions réelles de l'oppression stalinienne. Et ça, c'est que la sélection officielle, je ne vous parle pas des sélections parallèles.
C'est quoi une sélection parallèle au Festival de Berlin?
Alors bon, voilà, au total, il y a quand même 400 films à voir pendant deux semaines. On a quand même quelques respirations, comme le dernier Kervern et Delépine, Effacé l'historique, qui a reçu d'ailleurs un prix, et qui nous parle des démêlés de Blanche Gardin avec une sextape. Donc on reste quand même dans le message politique.
Ça, ça doit être sympa.
Exactement, j'ai dit respiration. Je pense qu'effectivement, quand ça sortira, on rigolera bien. La Berlinale est aussi le festival qui présente le plus de films filmés, réalisés par des femmes. Donc toujours un festival très engagé.
Et ça cartonne.
Oui, alors c'est ça qui est assez spectaculaire, c'est que la Berlinale, c'est le seul festival au monde qui est entièrement ouvert au public. Vous pouvez aller à n'importe quelle séance.
C'est chouette ça.
Il y a eu 300 000 billets vendus cette année, au moins. On n'a pas les derniers chiffres. Hein. Et je me souviens comme ça avoir vu des films assises à côté de Nathalie Portman ou juste derrière Frances McDormand. C'est assez classe.
Bon,
et pour le coup...
Sinon, c'est fini ce week-end.
Oui, non, mais pour l'année prochaine.
C'est généralement la deuxième partie du mois de février. Et pour le coup, quand ça se passe comme ça, la magie du cinéma, elle opère bien.
Merci beaucoup, Hélène Kohl, pour ce décrochage allemand aujourd'hui. On vous fait des bisous. Comment on dit ça en allemand?
Cussi.
Cussi aussi, alors.
Europe 1.
Une deuxième heure de l'équipe et sauvage s'annonce. Nos deux premiers journalistes en compétition vont s'éclipser, cédant gentiment la place à deux nouveaux concurrents. Pas de honte à avoir pour les premiers. N'oublions jamais que les Beatles ont un jour fait la première partie de Sylvie Vartan.
Ah oui, oh putain.
Comme vous dites, Eva. Au programme, un règlement de compte entre Philippe Manœuvre, notre invité, et un de nos journalistes qui a visiblement déjà croisé sa route. Et puis, une innovation technologique étonnante, des outils de stimulation cérébrale pour apprendre plus vite. Imaginez une seconde l'utilité de tels outils pour Eva Rock, qui vendredi s'est quand même exclamé sous l'œil atterré de Cadmerade alors que je lançais un disque. La direction d'Europa m'a dit, mais plutôt Stéphane Echer.
Stéphane est là ?
C'est Fanny Cher.
C'était juste un disque. Si les nouvelles technologies peuvent nous aider, on les remercie d'avance.
L'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h-18h, Mathieu Noël.
L'heure d'une petite pause a sonné pour nos champions. Chaque après-midi, les meilleurs journalistes d'Europe 1 s'affrontent dans une lutte fratricide au service de votre culture G. Un seul ressortira d'ici coiffé de la couronne de chroniqueur du jour. Deux nouveaux concurrents vont nous rejoindre pour parler des progrès de l'électrostimulation cérébrale. Et pour l'un d'entre eux, visiblement en froid avec lui, se faire Philippe Manœuvre. C'est ce qu'il m'a dit avant l'émission, vous verrez ça Philippe. Rassurez-vous, l'émission restera très courtoise et élégante. En effet, la notion de classe m'importe beaucoup. Ici, on rigole, certes, mais on ne fait aucune concession à la vulgarité. Par exemple, ce n'est pas ici qu'un animateur potage se permettrait d'interrompre la chronique d'un de ses journalistes sous prétexte qu'il a décidé de jouer avec l'invité, en l'occurrence Cadmerade, au jeu titre qui consiste à hurler titre à chaque fois qu'une phrase fait penser à un titre de film X. Ça, franchement, c'est pas du tout notre genre.
Quand on fait introduire en fait la main dans la petite cage où
titre.
Ils ont essayé de voir si le rat aimait bien qu'on aille le chatouiller,
titre.
Et bien il se mettait sur ses pattes arrière pour bah, aller voir où est-ce qu'il y en avait. Dès que la main revenait.
Titre. Très belle émission, vendredi, ça m'a rappelé les grandes années de Bouillon de Culture.
Europe 1, 16h-18h, l'équipe est sauvage. Mathieu Noël.
Bienvenue à tous et à toutes dans l'équipe est sauvage spécial rock. Deux heures ébouriffantes en compagnie de Philippe Manœuvre pour recruter les musiciens qui auront la chance de se produire le 4 juillet prochain au Stade de France dans le cadre de Rock in 1000, le plus grand concert de rock amateur au monde. Et va pour l'occasion, 5 secondes de pur rock.
N'y va pas.
Merci. Voilà. Philippe, on continue de parler de Rock in 1000. Juste
vous
le temps de vous présenter notre...
Non mais vous êtes idiot. Non mais c'est vrai.
Mais
quand
je
même.
Suis pas idiot des fois, je suis idiot tout le temps.
Tout le temps, c'est
comme
vrai,
le signalait assez justement Cadmerade l'autre jour.
Oui.
Je vous présente nos deux derniers concurrents du jour. Face à vous, ne vous fiez pas aux apparences. Je sais, comme ça on dirait un mannequin slip Giorgio Armani qui passe ses soirées un verre de martini à la main dans un club select du 8e arrondissement. Alors qu'en fait, Anissé Mbida, notre spécialiste nouvelle technologie, est bien plus rock que ça. Pas
non,
vrai Anissé?
Non,
oh,
pas du tout.
Oh, vous avez fait tout. Quoi ce week-end?
Des selfies nus, complètement bourrés.
CQFD. Alors mon cher Anissé, bonne nouvelle. Vous allez pouvoir passer plus de temps à faire des selfies nus torchés à l'absolute sans que vos performances intellectuelles en soient affectées.
Oui. Des scientifiques ont fait d'énormes progrès sur la connaissance de notre cerveau. Et je vais vous parler de nouvelles techniques qui se développent pour nous aider à apprendre beaucoup plus rapidement à jouer de la guitare, à jouer de la batterie ou même à apprendre à parler chinois.
Et ça marche
et anglais, ça
quand
marche
on est
aussi,
grand aussi.
Ça marche n'importe quel langue étrangère.
Ça marche pour les adultes ou juste pour
ça
les enfants?
Ça marche pour tout le monde.
Oh, à ses côtés, Philippe, attention, clash en vue. Dans le tableau où les journalistes m'indiquent leur sujet, il a simplement noté ces mots énigmatiques et inquiétants, je cite, règlement de compte avec Philippe Manœuvre. Une histoire de meuf, peut-être. Nous allons le découvrir. Une chose est sûre, Jean-Philippe Ballas est le plus rock de tous les journalistes d'Europe 1. Le genre de type qui méprise tellement la variété qu'il est capable de s'exclamer dans un dîner.
C'est pas Michel Bruel?
Bonjour Jean-Philippe Ballas.
Bonjour à tous.
Alors Jean-Philippe, il faut nous expliquer quel est le contentieux entre vous et Philippe Manœuvre.
Je vais pas
qui,
vous mentir.
Qui visiblement ne vous connaît même pas. C'est ça qui est fort.
Ouais, c'est ça qui est pire. J'en ai gros, des souvenirs d'adolescence, de jeune adulte aussi. Je vous dirais la vérité, ma vérité sur Philippe Manœuvre.
Oh mon Dieu, des révélations perspectives.
Alors, il va falloir nettoyer la blessure, cautériser la plaie, poser les points de suture.
Je pense, il n'est pas bien.
Ça va pas là.
Alors, la stimulation cérébrale au secours de nos neurones ou bien règlement de compte à hockey Ballas, quel sujet l'emportera? Réponse juste avant 18h. En attendant, je me tourne vers notre invité. Qui est pour vous Philippe Manœuvre? Voici... Non pas un micro-trottoir, on n'est pas chez Drucker. Voici notre micro-trottrash. C'est pareil, sauf qu'on a gardé aussi les vacheries.
Si, si, bien sûr, je connais très bien Philippe Manœuvre. C'est ma génération.
Top Bob, Canal Jimmy. C'était un montage de clips des années 70-80. Je les ai tous enregistrés sur VHS. Et en plus transférés sur DVD.
Oui, j'aime bien Philippe Manœuvre.
Ouais, il est cool, parce que je le trouve cool.
Il est bougon. Les lunettes de soleil. Le sourire enjôleur.
Bah, c'est un petit peu ringard.
Dans mon lunette de soleil, c'est pas fait pour l'intérieur, quoi.
J'aime bien sa voix. J'aime bien sa voix. C'est un conteur.
Ah, bah, c'est les incorruptibles. Non, c'est pas les incorruptibles, ça, c'est le film. Bon, toi, t'es les Inrock, c'est ça?
Le rock? Bon, j'ai aimé ça quand j'étais jeune, lui. Alors, déjà dans les années 60, j'étais plus très jeune. Hein.
Aujourd'hui, j'ai écouté Bruce Springsteen parce que je connaissais pas du tout et j'ai beaucoup aimé.
Ah, ouais, je pense qu'il ouais, connaît bien, ouais. Ouais, ouais.
Philippe, vous devriez écouter. Bruce Springsteen.
Il a une super personnalité, il est cool. On apprend toujours en fait quand on écoute Philippe Manœuvre, on se marre, mais en même temps on écoute.
et écoutez Bruce Springsteen.
Alors que tout le monde sait que ça se prononce Trousse Brille Cream.
Bien sûr, cette personne ne connaît rien au rock.
Mais il y avait un beau compliment quand même à la fin. On vous écoute, on s'amuse et on apprend.
Oh, j'avais les larmes aux yeux, moi, d'entendre les gens qui me connaissent comme ça. Oui, parce que en fait, je dis la même chose depuis 40 ans. La musique, c'est super. Et un jour, un copain m'avait dit, mais en fait, au final, tout le monde va t'aimer parce qu'en fait, t'as amené que de la musique, toi.
C'est vrai que pour moi. Et dites-moi, Philippe Manœuvre, une question qu'on se pose, enfin que je me pose personnellement en regardant votre carrière. Vous avez jamais rêvé, vous, d'être une rockstar? Vous avez toujours mis en valeur les autres, êtes intéressé, mais vous auriez...
Mais je suis incroyable, j'en reviens pas qu'on ait fait le Stade de France une fois, moi et mes 1000 musiciens, je dis à tout le monde, c'est incroyable quoi. J'étais au Gibus il n'y a pas si longtemps, en 2009, avec les bébés rockers, et puis là...
C'est un club de rock hein, pour les gens qui connaissent pas.
Voilà, c'est un petit club punk de Paris, on était là avec les Nast, les Second Sex, les Bratz, et quand je suis arrivé au Rock in Mill, il y en avait des anciens bébés rockers, et ils m'ont dit, hey, patron, vous avez vu, en 10 ans, on a fait du Gibus au Stade de France. Waouh. Donc, c'est une bonne éclate, le rock. Ça continue à faire battre mon cœur, voilà. Et les gens le savent, je pense. Et puis, à force d'être tout le temps dans ce métier, puisque j'ai été rédacteur en chef, présentateur d'émissions, DJ, j'ai fait toutes les radios, on va pas les citer, mais y compris Europe 1, il n'y a pas si longtemps.
Et d'autres radios.
Salut les rockers,
avec Émilie Mazoyer, voilà. Et donc, j'ai toujours parlé de musique, donc je finis par connaître un certain nombre de gens, de dates, mais très modestement. Donc, je suis un journaliste rock et comme disait cette dame, Les Inrocuptibles, c'est peut-être le seul journal où j'ai jamais écrit une ligne et les gens continuent à m'associer aux Inrocuptibles éternellement. Donc je pense que j'ai complètement raté ma carrière. Personne ne cite jamais Rock et Folk, le journal où j'ai écrit pendant 40 ans.
Il restera le parrain du rock français. Philippe Manœuvre passe l'après-midi sur Europe 1.
Europe 1. Mais c'est Slash qui jouait le solo là en plus.
Évidemment, tout est calibré pour vous dans cette émission.
Oh là là,
à suivre. Nous allons bientôt savoir pourquoi Jean-Philippe Ballas en veut autant à Philippe Manœuvre. Un indice, quand il était petit, Jean-Philippe était fan de l'émission Sex Machine qu'il regardait chez sa mamie en cachette, car on y voyait des choses pas très catholiques, parfois même coquines, et quand sa grand-mère le surprenait devant, elle s'exclamait:
« Poussin, c'est très vilain de jouer avec ton petit oiseau quand mamie est dans la chambre. »
Toute une époque.
16h-18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage. Mathieu Noël.
Vous écoutez l'équipe est sauvage, l'émission hybride qui réunit humour et journalisme, exigence et désinvolture, un peu comme si les frères Gallagher faisaient un bœuf avec un groupe de mariachi bourré. Philippe Manœuvre, notre invité, qui a pourtant entendu pas mal de conneries dans sa vie, n'en revient pas. Il ne regrette pas d'être venu. Hein.
Bah, ça colle avec Narcos Mexico.
Complètement. Et saviez-vous, Philippe, que mon groupe de mariachi bourré a aussi rencontré les Eagles? Du miel pour nos oreilles. Hélas, il nous faut avancer. Je vous présente notre troisième concurrent du jour. Vous ne le connaissez pas, ou du moins vous ne vous souvenez pas de lui. En revanche, lui se souvient très bien de vous. Depuis qu'il sait qu'on vous reçoit, il est hyper tendu, limite désagréable. Jeudi dernier, j'ai eu le malheur de savonner sur son lancement. Il a tout de suite pris la mouche.
C'est vrai que c'est un métier la radio quand même, petit con.
Jean-Philippe Ballas, calmez-vous. Alors, c'est retrouvé avec Philippe Manœuvre, vous les attendez depuis longtemps.
Oui, parce que j'ai deux souvenirs, disons, douloureux avec Philippe Manœuvre. Le premier, dans les années 80, où, jeune adolescent, à la voix en pleine mue, et je ne vous parle pas du reste, je fais partie des fans inconditionnels de Sex Machine. 1, 2, 3, 4. Sex Machine, un miracle tout droit sorti du tube cathodique. Un miracle parce qu'une fois par mois, on nous parle de James Brown, on nous parle de Prince, de Michael Jackson, et miracle aussi parce qu'une fois par mois, on peut voir de jolies filles un peu pin-up. C'est peut-être un détail pour vous, mais quand on a 13 ans, ça veut dire beaucoup. Et justement, ce soir-là, avec les copains, nous sommes en transe, littéralement, parce qu'au tout début de l'émission, Philippe Manœuvre et Jean-Pierre Dionnet ont lâché une bombe. Tout à l'heure, du jamais vu dans l'histoire de la télévision française, nous assisterons dans Sex Machine au tout premier striptease
intégral.
Voilà pourquoi il vous en veut.
Je vous parle d'un temps d'avant les internets, il y avait 3 chaînes de télé et puis c'est tout. Autant dire qu'avec les copains, on était un peu crétins et surtout un peu morts de faim. Sauf que c'était une blague. À la toute fin de la séquence climax, la fille disparaît pour ne laisser à l'écran
qu'un squelette comme celui qu'on avait en cours de sciences nat. Oui, un squelette avec ce commentaire intégral, non ? Ce soir-là, monsieur Manœuvre, ce soir-là, vous avez trahi la confiance aveugle que nous avions mise à l'intérieur de votre perfecto. Et ce n'est pas fini, les amis.
Ah non.
10 ans plus tard, les années 90, je fais mon service militaire. Oui, à l'époque, c'était encore obligatoire. Et non, je n'étais pas un planqué, Mathieu. Tel un...
Mais moi, je n'étais pas un planqué, juste ça n'existait plus quand j'avais l'âge de le faire.
Tel un Elvis Presley de banlieue parisienne, je porte bien l'uniforme. Mais par-dessus tout, je rêve de travailler pour Rock et Folk. Pas pour Best ni pour les Inrock, les autres revues, non. Pour moi, la Bible, c'est Rock et Folk pour tout amateur de guitares électriques. Alors, dans la caserne, j'écris une longue lettre de motivation. Longue, très longue, interminable.
Trop longue peut-être.
Je l'écris à Philippe Manœuvre, où je me prends pour Bob Dylan, Robert Zimmerman, avec un style plus proche de celui de Robert que celui de Zimmerman. Évidemment, je n'aurai jamais de réponse. Alors je vais prendre mon courage à deux mains et un bottin. Les enfants, si vous ne savez pas ce qu'est un bottin, vous demandez à vos parents, je ne peux pas tout faire. Je trouve le numéro de Rock et Folk que j'appelle, ça sonne, ça décroche. Je reconnais instantanément la voix de mon interlocuteur. Là, j'ai le souffle coupé parce que c'est lui. C'est Philippe Manœuvre qui, manifestement, n'a pas envie de me parler et qui va mentir éhontément. Cette scène a été reconstituée.
Oui, oui, non, non, c'est pas Philippe Manœuvre. Philippe est sorti faire une course, mais je peux prendre un message.
Et c'est ainsi que, pendant 5 minutes, j'ai fait mine de ne pas discuter avec mon idole, mon maître Yoda. Nous sommes aujourd'hui en 2020. Je n'ai jamais signé dans Rock et Folk, mais c'est pas grave parce qu'aujourd'hui, j'ai l'occasion... Les yeux dans les yeux, ou plutôt les yeux dans les Ray-Ban, exactement. J'ai l'occasion de vous dire merci pour la musique et merci pour le reste, monsieur Manœuvre.
Waouh, merci beaucoup Jean-Philippe Ballas pour ces beaux souvenirs. Vous vous souvenez d'avoir répondu et d'avoir dit que ce n'est pas vous ?
Oh non, pas, j'aurais jamais, je peux pas l'imaginer. Soit c'était, ça devait être Mathieu qui
ça
répondait au téléphone.
Ça pouvait être quelqu'un qui imitait votre voix aussi.
Ouais, qui parlait un peu comme ça, oui, parce que tout le monde parlait un peu, je ne sais pas, peut-être que je les influençais.
Il reste convaincu.
Je trouve que vos hésitations disent long quand même.
Non, parce que franchement, dans Rock et Folk, on recrutait dans le lectorat les gens qui nous envoyaient des chroniques de disques. Souvent, j'ai pris mon téléphone pour les appeler en disant « J'ai beaucoup aimé ce que vous nous avez envoyé. Est-ce que ça vous intéresserait d'en faire plus ?» Donc, Jean-Philippe, pardon, mais...
Non, mais... Mon psy vous remercie, ça m'a pris des années, mais je me suis
c'est digéré. Votre chronique revanchard et sointante d'aigreur vous permettra-t-elle de décrocher les 3 points de la victoire ? Jean-Philippe, nous le saurons juste avant 18.
Europe 1.
C'est la question que vous posez certainement à ce stade, mon cher Philippe Manœuvre.
Où sont les femmes ?
Non, qu'est-ce qu'on regarde à la télé ce soir, Jean-Philippe ? Heureusement, c'est justement une femme à nul autre pareil qui va répondre à cette épineuse question. Eva Rock a tout regardé pour nous. C'est les yeux rougis qu'elle va venir nous livrer son choix juste après Jet. Are you gonna be my girl sur Europe ?
L'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h-18h, Mathieu Noël.
L'équipe est sauvage, la grande battle des journalistes d'Europe 1 continue. Nos meilleurs chroniqueurs s'affrontent sous l'égide d'un arbitre très rock aujourd'hui, Philippe Manœuvre, qui je crois passe un bon moment.
Moi j'ai trouvé sympa quand il a foutu la torgnole à l'autre con là, c'était génial. C'était le meilleur moment de la saison à mon avis.
Oui c'est vrai, c'est dynamique comme émission. Philippe Manœuvre, ambassadeur de luxe de Rock in 1000, le concert qui réunira 1000 musiciens au Stade de France le 4 juillet prochain. Un concert géant qui s'est retransmis à la télé ou pas ?
Ah non. C'est à vivre. D'abord... parce qu'il y a un son unique dans le stade. C'est-à-dire que chaque musicien a son ampli 100 watts. Les bassistes, les 300 bassistes, ça fait déjà 300 amplis 100 watts, plus les guitaristes, plus les batteurs qui tapent avec leur grosse batterie, là, une espèce de scansion. Et il y a un son unique. Vous avez vraiment... Là, vous êtes au cœur de la fournaise. Quoi.
C'est une donc, expérience à vivre. Pas à regarder
oui, c'est
télé.
À vivre, franchement.
Avec des invités ou pas, Philippe Manœuvre ?
La dernière fois, on a eu Nono de oui. Trust qui est venu sur l'hommage à Johnny Hallyday faire un solo brillantissime sur Allumer le feu. Il est resté pour Queen pour faire le solo de We Will Rock You. Enfin, on était en transe, on l'évitait tous. Et cette année, il y aura quelques invités, mais ça sera révélé plus tard.
Un ou deux ou trois,
voilà, pas plus.
Un pour nous, un nom.
Mais là, non, pour l'instant, je n'en dis pas plus. Écoutez, je n'en dis pas plus. Voilà.
Alors, le saviez-vous, mon cher Philippe, selon une étude de l'université d'Oxford, c'est dire si c'est pas rien, on passe désormais chaque jour 17 minutes à s'engueuler avec son conjoint le soir venu pour savoir ce qu'on va regarder sur Netflix ou MyCanal ou la télé en général. Heureusement, Dieu a créé Eva Rock. et baroque et sa chronique. 17 minutes de gagner.
Je vous propose d'aller vous balader sur le site d'une chaîne que vous connaissez très bien, Philippe Manœuvre, en l'occurrence Arte, pour découvrir deux programmes notamment qui n'ont rien à voir. Vous allez comprendre. Si certains d'entre vous sont frustrés de ne pas pouvoir voyager à cause du coronavirus, hein, parce que c'est vrai, on est un peu bloqué dans nos pays respectifs, eh bien, vous allez pouvoir voyager par écran interposé et partir avec le navigateur Marc Tiercelin à la découverte des peuples des mers. C'est une série documentaire de 26 minutes. C'est vraiment fait pour rêver, pour apprendre aussi et découvrir des sociétés qui sont respectueuses de la nature. Par exemple, aujourd'hui, et c'est à revoir sur le site d'Arte, on peut découvrir les habitants de l'île de Coron, c'est aux Philippines. Palme rustique en bois, un tuba,
c'est
un
au nord,
masque,
non, plutôt.
Un harpon très artisanal, pardon, au nord de quoi ? Oh non, Mathieu, le nord des Corons, non mais c'est pas possible quoi.
Je ne sais pas, il faut être précis géographiquement
parlant. Alors que moi, je vous propose une partie de pêche dans une mer translucide.
Tu prends que deux poissons ?
On capture juste de quoi nourrir sa famille. Comme ça, il y a toujours des poissons sur le récif et ils ont le temps de se reproduire.
10 destinations sont disponibles pour cette série documentaire qui donne envie de boucler sa valise très vite et de partir avec Marc Tiercelin, si c'est possible aussi dans la valise.
Ah ben tiens, ah ben voilà, en fait. Ah d'accord, je comprends mieux.
Quand même. Okay. Ouais, mais ça compte aussi. L'incarnation du documentaire, ça compte. Et puis un programme qui devrait vous plaire, Philippe Manœuvre. Est-ce que vous connaissez ce groupe ? Ça vous dit quelque chose ? Ce sont les Primal, Primal Scream,
ah
bah excusez-moi.
Oui, le
Primal
groupe de Bobby Gillespie.
Exactement. Alors,
mais
je vous en parle.
Le fils de Dizzy ?
Non. Bobby Gillespie, non, c'est un super groupe anglais.
Je vous en parle parce que Arte vient de lancer une nouvelle émission qui s'appelle Echoes. C'est un magazine pour mettre en avant des formations rock, alors rock alternatif, comme Primal Scream qu'on vient d'entendre. C'est une émission qui est enregistrée au Palais de Tokyo, qui est présentée par Jenny Bess du groupe Savages, si je ne me trompe pas.
Oui,
voilà.
Oui.
Qui parle un français d'ailleurs impeccable. Elle est franco-anglaise et qui surtout parvient à faire dialoguer trois groupes. Alors cette fois-ci c'était donc, je vais y arriver, Palma Scream, Idols et Life. Chaque formation offre 30 minutes de concert avant de participer à une conversation, alors qui évite totalement la promotion pour s'intéresser à des questions plus politiques et philosophiques. C'est absolument passionnant et ça permet de découvrir des groupes invisibles dans les médias français. Ça s'appelle Echoes et c'est à revoir sur le site d'Arte.
Et bien voilà, c'était les conseils d'Eva et on a gagné 17 minutes, l'air de rien. Merci Eva.
Europe 1.
Et si la stimulation cérébrale nous permettait d'apprendre sans nous fatiguer, comme Neo dans Matrix ? C'est le sujet de la chronique de ce véritable athlète de l'info qui s'avance à présent vers le micro. Anis Mbida est aux avant-postes du classement général. Son rival du jour, Jean-Philippe Ballas, le sait. Le battre à la régulière est quasiment impossible. Alors depuis tout à l'heure, il tente de le pousser à déclarer forfait en jouant sur la peur.
Je suis un peu malade, je reviens de Pékin, je ne sais pas ce que j'ai.
Bien joué, Jean-Philippe.
16h-18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage. Mathieu Noël.
Rire et découvrir en compagnie d'un invité palpitant, vous écoutez l'équipe est sauvage. 2 heures d'une bataille rangée entre les meilleurs journalistes d'Europe 1 au service de votre culture générale pour départager nos champions, vous bien sûr via Twitter, mais aussi cet après-midi le boss du rock français Philippe Manœuvre, venu nous présenter Rock in 1000, ce concert géant qui réunira le 4 juillet prochain au Stade de France près de 1000 musiciens amateurs, enfin... si le coronavirus est vaincu d'ici là, parce que sinon, ça risque d'être un petit problème, ça.
Tout le monde pense que le coronavirus va s'arrêter là, prochainement, avec le printemps. Enfin, c'est ce que disent les scientifiques. Les virus disparaissent un peu à l'arrivée du printemps. Là, en ce moment, il y a des situations incroyables. C'est-à-dire que Christophe Maé fait un concert vendredi à Caen. Il y a 4600 places assises. C'est bon, ça passe. Vous pouvez aller aux Zénith.
Mais 5002.
Mais alors, Matt Pokora à Bercy, 17 000, c'est le big no-no. Hein. Pas question. Ouais. Et Matt Pokora n'est pas...
Oui, j'ai vu qu'il n'était pas content.
Il n'est pas content. Bah oui, quand on remplit Bercy, on touche si près du but, c'est quand même... on vous enlève le tapis. Ah non, stop. Le salon du livre vient d'être interdit. Mais...
Et le salon de l'automobile de Genève aussi a été annulé.
Oui.
Grand événement.
Alors il y a des virus en Suisse.
Ah, ils passent la frontière.
Non, mais donc on prie tous pour que le printemps marque un peu la fin de ce virus, qu'on espère qu'un scientifique quelque part va trouver un antidote. On touche du bois puis du singe. Mais c'est vraiment, c'est très difficile pour le monde du spectacle. Hein. C'est pas la meilleure année de tous les temps.
Donc le printemps va bousiller le coronavirus. On est tous d'accord là-dessus. On se retrouvera tous pour Rock in 1000. Chacun peut postuler. Il faut passer une audition. Le niveau est très élevé. Et comme cette année, c'est
non,
ouvert
non, aux non, chanteurs. Attendez, le niveau n'est pas si élevé que ça, Mathieu.
Sinon, ça nique mon lancement. C'est très élevé le niveau. La recherche, vous avez placé la barre très haut. J'ai tout de suite pensé à celui qui possède un des plus beaux organes de sa génération. Et il l'a prouvé encore samedi soir.
Ah, tu vois ma carotte ?
Non, il s'est vu dire samedi soir au karaoké. Vous vous souvenez de la voix de Freddie Mercury, Philippe ?
Oui.
Eh bien, retenez votre souffle, car l'espace de quelques petites secondes, vous allez la retrouver intacte dans toute sa justesse et toute sa puissance.
Go on and on and on.
C'est bon, le casting est terminé. Heureusement, Philippe, Anissé Mbida n'est pas notre expert musique, mais notre expert innovation. Et Anissé, ce soir, une info qui peut tout simplement changer nos vies.
Oui, une info, puisqu'on va pouvoir apprendre automatiquement sans se fatiguer. Est-ce que vous vous souvenez de cette scène culte dans le film Matrix,
bien sûr,
où on télécharge des compétences dans le cerveau, à petit souvenir.
Tu sais piloter ça?
Pas encore.
Opérateur.
Tank, il me faut un programme de pilotage pour un hélico B-222. Dépêche-toi.
On apprenait à piloter l'hélicoptère avec un petit téléchargement
dans le cerveau.
Et bien,
figurez-vous qu'on s'en rapproche tout doucement parce que des chercheurs américains du laboratoire HRL Lab en Californie ont fait un truc assez incroyable. Ils ont enregistré les signaux cérébraux, les informations cérébrales de pilotes, des meilleurs pilotes de ligne. Ensuite, ils ont pris ces signaux, ils les ont transférés, ils les ont stimulés sur des cerveaux de personnes qui étaient en train d'apprendre à piloter. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, ils ont appris à piloter deux fois plus rapidement. Donc, en fait, c'est un peu un transfert de compétences. On a pris celles des experts et on les a envoyées automatiquement dans la tête. Pourquoi c'est terrifiant?
Parce que c'est terrifiant, parce que si on extrapole ça à tout, par exemple, je pense à la musique avec Philippe Manœuvre, on imagine, on pourrait transférer les facultés mentales d'un grand pianiste à
n'importe qui. Pas les facultés mentales, mais
l'apprentissage, enfin sa capacité à apprendre. Du coup, on aurait une génération de virtuoses.
Si non, mais pas du tout.
J'ai compris, c'est ça que vous me dites.
Mais non, mais ça a permis d'apprendre deux fois plus vite. Ça ne les a pas transformés en as du volant.
D'accord, ça permet d'être meilleur.
Et d'ailleurs, ça ne fonctionne pas avec n'importe quel type de compétence, ça fonctionne uniquement avec les compétences qui lient de la mémoire et puis des fonctions motrices. Donc quand on doit par exemple manier du manche ou bien par exemple la coordination à la batterie ou à la guitare, ça permet d'apprendre beaucoup plus rapidement ce type de choses. Mais on ne devient pas un virtuose pour autant, hein, c'est pas ça, mais ça permet d'aller deux fois plus vite dans l'apprentissage. Alors le problème de ces systèmes-là, c'est qu'ils ne fonctionnent pas quand on veut devenir meilleur en maths par exemple ou quand on veut apprendre à parler une langue.
Ah dommage.
Merde. Mais... On a eu la même réaction, Eva.
Moi, j'ai dit dommage, et vous avez dit merde. C'est envoie la différence
côté,
de la politesse.
La vulgarité, mais la même scolarité, évidemment.
Mais on va vous rassurer parce qu'il existe un autre système. Alors, c'est toujours avec des ondes cérébrales et en utilisant un casque d'analyse. Et là, on va stimuler des endroits très, très précis du cerveau. En stimulant ces endroits précis du cerveau, ben, ça va mettre le cerveau dans un mode apprentissage, on va dire. Donc, ça va accélérer le signal, enfin, la façon de communiquer des signaux dans notre cerveau. Et ça va aussi permettre d'apprendre beaucoup plus rapidement. Mais là, cette fois-ci, des mathématiques ou une langue étrangère, par exemple.
Ce que vous nous dites qui est incroyable, c'est que c'est déjà commercialisé. On peut acheter ces casques?
Oui, parce que ça fait une dizaine d'années qu'on fait des recherches sur le cerveau et on s'est rendu compte qu'en faisant de la stimulation électrique de l'extérieur du crâne hein, vers l'intérieur, eh bien, on arrivait comme ça à apprendre beaucoup plus rapidement. Et il y a plusieurs startups qui se sont lancées dans le domaine. Hein. J'ai noté par exemple Allos Neuroscience, Focus ou The Brain Simulator qui vendent aujourd'hui des espèces de casques. Alors ça ressemble à des casques audio, des casques pour écouter la musique, sauf qu'il y a des petits picots qui en même temps sont capables de stimuler votre cerveau. Il y en a même une qui est spécialisée dans l'apprentissage des langues, l'apprentissage du chinois, parce qu'elles ont découvert qu'il y a un petit nerf qui est juste au-dessus de l'oreille, qui permet...
C'est le nerf du chinois.
Non, mais un air qui permet de mieux comprendre les accents, de mieux distinguer les intonations et de mieux pouvoir les reproduire. C'est très compliqué en chinois de distinguer les intonations et d'être capable de reproduire. Et ça permet d'apprendre deux fois plus vite, trois fois plus vite le chinois, par exemple.
Moi qui suis hypochondriaque, je vous pose la question, surtout, est-ce que ça a été testé en laboratoire pour voir si c'était pas néfaste?
Non,
des trucs qui vont dans mon cerveau.
Non, c'est évidemment pas néfaste, parce que c'est des petites stimulations, on ne grille pas le cerveau. Le problème, c'est qu'aux États-Unis, maintenant que ces recherches ont été prouvées, il y a plein de gens qui s'amusent à fabriquer leur propre casque de stimulation cérébrale. Personnel justement pour avoir des meilleures notes, et là évidemment ça marche pas bien, donc il faut stimuler avec une intensité bien particulière certaines zones très précises du cerveau. N'importe qui ne peut pas le faire, mais on s'inquiète aujourd'hui du dopage cérébral, figurez-vous, parce qu'il y a pas mal de personnes qui commencent à l'utiliser pour apprendre une symphonie, par exemple. La symphonie, c'est très très long à apprendre, et bien on peut apprendre beaucoup plus rapidement, apprendre des mouvements, des chorégraphies aussi en sport. Donc il y a le dopage à l'école et il y a aussi le dopage qui est utilisé chez les sportifs.
Philippe Manœuvre, ça vous enthousiasme ça ou ça vous fait flipper?
C'est irréversible. Enfin, à mon époque, les gens mettaient un magnétophone à 6000 sous leur oreiller, ils dormaient la nuit avec un truc qui leur disait les mots en anglais. Mais Taylor is rich. Donc, mais ça fait partie de ce qu'on est en train de vivre actuellement. C'est une époque géniale, incroyable. Bon, c'est magnifique, des infos comme ça. Merci.
Ça me stimule.
Je crois que dans les labos, il y a des hamsters qui jouent très bien du banjo maintenant.
Et c'est un grand pas pour l'humanité. Merci Anissé Mbida. Ce sujet vous permettra-t-il de remonter sur le podium et de quitter cette quatrième place, la tristement célèbre place du con qui est la vôtre aujourd'hui? Seul l'avenir et Philippe Manœuvre nous le diront. Europe 1. Restez à l'écoute de l'équipée sauvage, l'émission tellement rock qu'on y casse des guitares, comme a pu le constater notre invité de mercredi dernier, Old Olaf. Old Olaf qui, alors que sa Gibson s'était fracassée au sol, a dû apprécier la petite vanne de notre réal. C'est ça ? Oui, parfois
allez,
je vois des trucs qui passent.
C'est
pas grave, j'utilise pas mes guitares.
20 secondes, attention. Ah bah là.
Heureusement, il était déjà pas accordé.
Bien joué cette petite vanne, Philippe. Philippe Manœuvre reste avec nous. On se retrouve dans un instant pour la recette totalement rock de notre expert gastronomique, du porc au café.
Je crois que je vais vomir.
Ouais, c'est même plus du rock, c'est du punk. A tout de suite pour Délice in Extremis.
L'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h-18h, Mathieu Noël.
Se cultiver sans pour autant se péter un neurone, vous écoutez l'équipe est sauvage, deux heures d'éclectisme total et militant où le journalisme le plus rigoureux côtoie l'humour le plus potache, comme si Yvette Horner reprenait Daft Punk. Témoin effaré de cet éclectisme jusqu'au boutiste, la mémoire du rock, Philippe Manœuvre est avec nous pour vous inciter à rejoindre, soit dans le groupe, soit dans le public, l'événement le 4 juillet prochain au Stade de France. Rock in 1000, deuxième édition, plus de 1000 musiciens amateurs sur scène. Il faut rappeler, Philippe, l'origine.
La genèse.
Ah,
voilà, ben c'était il y a quelques années, un fan absolu des Foo Fighters qui s'appelle Fabio Zaffanini était dans sa petite ville et il découvre qu'il y a une tournée des Foo Fighters qui ne passe pas par sa ville. Et donc, il est traumatisé. Il se dit, on pourrait attirer l'attention du groupe. Et il réfléchit, il se dit, et si on jouait un morceau des Foo Fighters à 1000 musiciens ensemble dans le stade de la ville ? Donc il lance ça, ils ont joué deux morceaux des Foo Fighters à 1000 musiciens, et là ils ont été 28 millions de vues sur Internet, les Foo Fighters alertés sont venus jouer dans la petite ville, calmez-vous, on arrive. Et puis ils avaient pris le goût du sang, si j'ose dire, ils ont découvert qu'à 1000, bah, ça fait plus de bruit qu'à 4, et que c'est même, ça produit un boucan incroyable, enfin quelque chose de très rock, quoi. Et aujourd'hui le rock se cherche des nouvelles limites à dépasser, quoi. Aujourd'hui le rock c'est la Hellfest, je voudrais que ce soit Rock in 1000, on parle de Rock in 1000 comme on parle de la Hellfest, comme on parle de Burning Man dans le désert du Nevada, c'est au-delà des limites, comme on parle de festival de Roskilde où il y a 4 jours de métal non-stop au cercle polaire, enfin voilà, aujourd'hui le rock s'est trouvé des nouveaux challenges, on fait reculer la possibilité et nous c'est dire à tous ces musiciens amateurs pour un soir, voilà, vous allez être les Kings, vous allez être les Stones, vous allez être ce que votre plus grand rêve, c'était de jouer dans un stade. Parce que c'est un truc incroyable de jouer dans un stade, et puis au Stade de France. Pour nous, quoi, le rock étant très pyramidal, jouer au Stade de France, c'est le sommet absolu. Johnny Hallyday, il a joué 9 fois. Et moi, j'ai déjà des musiciens qui me disent « Vous croyez qu'on y arrivera ?»« Vous croyez qu'on arrivera à battre le record de Johnny ?» c'est normal, ça fait partie du challenge.
Philippe Manœuvre, vous avez rencontré vos idoles toutes ces années. Les Stones, vous les avez interviewés des dizaines de fois. Est-ce que vous avez déjà été déçu par des gens que vous idolâtriez comme ça et qu'en les rencontrant, finalement, vous vous dites... Ouais,
non, jamais. Non.
Vous a rencontré, Mathieu Noël.
Oui,
il
à part,
avait
à part moi.
Vous avez... à part Mathieu Noël.
À part moi, mais
Jean-Philippe Ballas. Non, moi j'étais, je touchais les nuages quand j'arrivais dans une pièce où il y avait mes Johnny Winter ou Todd Rundgren. Je me disais, oh, mais voilà. Puis je connaissais toutes les phases B de leurs 45 tours. Et donc, ils se disaient, tiens, celui-là, marrant, il connaît notre musique. Et donc, on avait des très bons rapports, très amicaux.
Mais par exemple, il est sympa, Mick Jagger. Je sais pas, il paraissait tellement inaccessible.
Mick Jagger, il est fabuleux. C'est vraiment,
il est sympa dans la vie.
Ah, mais c'est un garçon extraordinaire. Il a toujours la petite anecdote. Il parle français. Enfin, c'est quand tu viens faire une interview télé. Je me souviens, dans les années 80, on faisait une interview télé pour Antenne 2. Ça s'appelait encore Antenne 2, les enfants du rock. Et je lui dis, mais vous intéressez à la politique. Vous avez un château en France. Vous intéressez à la politique française. Vous savez qui est le président, Mick Jagger, du tac au tac. Le général de Gaulle, non. Bon, voilà, qu'est-ce que tu veux d'autre ? Enfin, c'est du bonheur de rencontrer ces gens parce que, oui, ça pourrait être des mecs puants, affreux, mais que ce soit de Johnny Rotten à Mick Jagger, j'ai vu des gens, d'abord, qui étaient contents qu'on écoute leur musique, comme tous les musiciens. C'est tout, quoi. Mais Bernard Pivot m'avait dit la même chose à propos des écrivains.
Oui,
il m'avait dit,
sont
vous
contents.
Savez, quand on a lu le livre d'un écrivain et qu'on l'interviewe, il est tellement heureux que la moitié du boulot est faite. Et moi, connaissant tellement par cœur... Enfin, que même ces musiciens, des fois, nous... ça te plaît en disant oh, cette disque là je l'ai sorti avant celui-là, c'était avant Wikipédia. Tu vois, et souvent on était réveillé la nuit par des gros rockers qui nous disaient mais attends, je me souviens plus, ça c'était où.
C'est fou. Ça, j'imaginais pas que ça allait à ce point-là. Je savais que vous étiez un puriste, mais je pensais pas que les mecs vous appelaient pour savoir ce qu'ils avaient joué.
C'est arrivé, bien sûr, c'est arrivé. Non, c'est arrivé une fois où c'était les Stones faisaient un album avec des morceaux acoustiques. Ils allaient faire leur unplugged, hein, ça s'appelle ouais. Stripped. Et on a eu le bureau des Stones à appeler un certain nombre de fans, journalistes, au-delà de fans, en disant. Vous auriez voulu voir quoi sur cet album? Et moi, j'ai cité trois chansons et il y en a deux qui sont passées. Donc, je me...
Quel pour influenceur.
Moi, voilà, c'était réglé. Nobel, les Césars, l'Oscar.
C'est encore
tout
mieux.
Pédard.
L'équipe est sauvage, spécial rock continue avec Philippe Manœuvre. Mais qu'entends-je, Philippe? Et oui, c'est votre estomac qui gargouille. Il est temps de passer à la recette. Chaque soir, alors qu'au moment où vous franchissez votre porte d'entrée, vous vous rendez compte que vous avez totalement oublié de faire les courses, il vous sauve la mise avec une recette de secours. Voici le plus rock'n'roll des chroniqueurs gastronomiques, le genre de type sans filtre, capable lors d'un premier rendez-vous de s'exclamer
« Le pommard, ça fout le braquemar !»
Bonjour Olivier Pouls.
Bonjour les amis. Bonjour, bonjour, bonjour Philippe Manœuvre.
Oui, tu peux nous faire un quatrième bonjour si tu si t'es pas inspiré, tu peux aussi dérouler d'autres bonjours. Hein. Alors mon Olive, qu'est-ce qu'on mange ce soir?
Recette rock'n'roll, évidemment, on va casser les codes, on va faire saigner les casseroles, on va repousser plus loin encore les limites possibles des recettes de cuisine classique. On va envoyer tous ces bons vieux bouquins de cuisine au feu pour réinventer la cuisine.
Et alors j'ai entendu parler d'un porc au café, Olivier. Pour l'instant, les bouquins que vous avez mis au feu, il faudrait peut-être les ressortir du feu rapidement, les sauver pour faire une bonne blanquette de veau à la place.
Oui, mais non, parce que effectivement, j'ai entendu une petite pointe de doute tout à l'heure dans votre voix en vous disant « Côte de porc au café, c'est pas sûr que ça me plaise ». Mais pourtant, je peux vous assurer que c'est une association qui marche vraiment bien. Alors, tout est dans le dosage. Et c'est vrai que le café en cuisine, c'est pas moi qui l'ai inventé, hein, comme le rock'n'roll non plus d'ailleurs. Le café, on va l'utiliser comme une épice. Alors, écoutez bien ce dont vous avez besoin pour réussir de manière inratable cette recette de côte de porc au café dès ce soir. Il vous faut pour deux personnes une belle côte de porc fermière taillée dans l'épaisseur. Il vous faut un peu de beurre. Il vous faut 10 centilitres de bouillon de volaille. 5 centilitres de café, un café que vous aurez tout simplement préparé à la machine comme vous feriez un petit expresso. 5 centilitres de crème, sel, poivre. Alors l'idée, c'est d'abord de commencer la cuisson de votre côte de porc dans la matière grasse. On peut rajouter un petit bouquet garni et une petite gousse d'ail écrasée, ça va donner du goût. Et ce qui est important, c'est de régulièrement arroser cette côte de porc avec le gras de manière à lui permettre de bien caraméliser. La cuisson dure environ une quinzaine de minutes. Vous allez la tenir au chaud dans un four à 50-60 degrés où elle ne va pas continuer à cuire, mais justement, elle ne va pas refroidir parce que pendant ce temps-là, vous allez faire votre sauce. Alors pour faire la sauce au café, déglaçage de la poêle, c'est-à-dire poêle bien chaude. Déglacer, ça consiste à récupérer les sucs qui sont dedans. Alors avec votre bouillon de volaille, avec votre café et avec un petit peu de crème, vous allez laisser réduire tout ça de moitié de manière à ce que la sauce prenne un peu de consistance. Sel, poivre, et puis voilà, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Il ne restera plus qu'à arroser votre côte de porc avec cette sauce au café. Et croyez-moi, c'est surprenant, mais ça marche vraiment très bien.
Mais écoutez, je vois Eva Rock qui opine du chef. Elle a l'air d'approuver cette recette qui paraît bizarre sur le papier.
Oui, parce que l'association du café avec les viandes, c'est vraiment très très bon. Non, mais vraiment.
Eh bien écoutez, si c'est une recette validée par Eva Rock, je pense qu'on est parti pour la gloire. Merci Olivier Pouls, qu'on retrouve tous les samedis dans la table des bons vivants de Laurent Mariotte à 11h sur Europe 1.
Europe 1.
Comment se terminera cette édition rock de l'équipée sauvage? Qui sera notre hero? Just for one day. Philippe Manœuvre se concentre pour désigner le plus méritant.
Déjà qu'il est défoncé.
Non, je vous en prie Jean-Philippe, vous réglerez votre petit contentieux en antenne.
L'équipée sauvage sur Europe 1. 16h-18h, Mathieu Noël.
Daft Punk à l'accordéon, Oasis repris par des mariachi. Philippe Manœuvre aura découvert avec nous aujourd'hui de nouveaux horizons. Hélas, les meilleures choses ont une fin et l'équipée sauvage aussi, l'heure est venue de trancher. Qui sera élu chroniqueur du jour? Qui gagnera des places pour la prochaine tournée des Rolling Stones? Qui au contraire gagnera des places pour aller applaudir Tom Leb à l'Eurovision? Philippe Manœuvre, vous ne pouvez en désigner qu'un.
Waouh, trop de compétition, on va attendre 5-6 ans et reprendre le truc où on l'a laissé.
Ah, on peut pas, Philippe, on n'a pas le temps, il faut finir l'émission, faut y aller, faut se mouiller, c'est le moment toujours cruel du quitte ou double. Ils ont 10 secondes pour vous convaincre. Anissa Mbida, pourquoi Philippe Manœuvre devrait-il voter pour vous?
Peut-être parce que c'est une attitude très rock de voter pour la seule chronique qui n'a pas parlé de musique.
Oh, ah oui, c'est, ah, vrai, que c'est vrai que vous n'êtes pas adapté du tout au thème de l'émission. Vous n'avez rien à foutre.
Quoi. Bah, je sais pas, je me plante à chaque fois que j'essaie de faire. Donc,
même,
je fais
un peu de la triche parce qu'il a dit pour apprendre la musique et tout. Oui, il y avait un peu de tuto musical. Quand même, quand
Jean-Philippe Ballas, pourquoi voter pour vous?
Ne votez pas pour moi, votez pour l'enfant de 13 ans qui se met toujours en moi.
L'enfant blessé. Axel de Tarlé.
Parce que parler de Vincent Bolloré, ça c'est encore plus rock'n'roll pour séduire Philippe Manœuvre.
Et enfin, Eva Rock pour la première fois en compétition de l'année. Puisqu'elle remplaçait aujourd'hui Virginie Fulpin.
Oui, mais justement, pour montrer toute notre solidarité auprès de Virginie, on peut lui donner quand même les 3 points.
Mais Virginie n'aura aucun point, ça sera vous qui l'aurez si
jamais. Ah bien sûr que non. Ah bah non, ça sera pour Virginie.
C'est vous qui décidez des règles, en fait, au fur et à mesure de l'émission. C'est vraiment très rock, ça.
C'est pas possible.
C'est très bizarre. Eva, dévoilons d'abord le choix de nos auditeurs.
Alors, le choix des auditeurs s'est porté sur Jean-Philippe Ballas, qui remporte les 2 points.
J'étais sûr que cette histoire émouvante allait toucher le cœur de nos petits auditeurs.
Oui, il y avait sexe dans le titre aussi.
Ça marche toujours quand il y a sexe. 2 points pour Jean-Philippe Ballas. En ce qui me concerne aujourd'hui.
Ah ben c'est à moi que vous donnez le petit point, même si c'est pas pour moi.
C'est-à-dire que vous voulez influencer directement comme ça en me dictant ma conduite. Et ben vous savez quoi, Eva?
Oui.
J'allais voter pour vous.
Ah.
Mais
comme vous avez tenté d'influencer le présentateur de cette émission, je voterai pour Anissé Mbida. Et voilà, pas un point pour Anissé. Tant pis pour vous. Mais merci d'avoir remplacé Virginie au pied levé. Mais vous le savez ici, de toute manière, c'est l'invité qui a le dernier mot. Philippe Manœuvre, qui, selon vous, mérite d'être sacré chroniqueur du jour?
J'ai combien de temps?
Vous avez 17 minutes.
Je sais pas, mettez un disque peut-être, je vais en réfléchir. Moi, je les ai tous bien aimés. Eva, c'était les gens qui font de la gym. Alors, quelle musique écouter quand on fait de la gym? C'était intéressant, très intéressant. Anissé, il m'a ouvert un univers où moi je pourrais prendre les vibrations de Clapton pour apprendre à faire ce fameux petit déroulé
la stimulation cérébrale.
Comment faire le tididout tididout? Bon ben grâce à vous là. Donc ça m'a ouvert des perspectives mentales. Axel de Tarlé, le venin. Et moi, comme dans téléphone, j'ai envie de dire crash ton venin.
Crash ton venin. Ne l'encouragez pas.
Et puis Jean-Philippe Ballas, moi j'ai bien aimé sa chronique parce qu'il a été confrontationnel, quoi. Il a dit une manœuvre, j'ai beaucoup aimé, puis vous m'avez beaucoup déçu. Alors en fait, c'était pas moi qui était là, qui répondait au téléphone.
C'est ce que vous maintenez en tout cas.
Moi c'est ce que je maintiens, mais du coup je suis obligé, je donne Jean-Philippe Ballas.
Et c'est Jean-Philippe Ballas qui remporte la 124e journée de l'équipée sauvage. Mais c'est pas grave.
Je voulais gagner pour
Virginie.
Ce n'est
qu'un jeu. Elle voulait gagner pour Virginie. C'est ça l'altruisme des Baroques.
C'est le rock aussi.
C'est le rock qui a gagné. C'est le seul vainqueur. C'est le rock. On remercie notre invité Philippe Manœuvre, parrain de la 2e édition du plus grand concert rock amateur du monde. Plus de 1000 personnes sur la scène du Stade de France le 4 juillet prochain, dont peut-être Anissé Mbida.
We are the
Merci également à mes équipiers du jour, Eva Rock, Axel de Tarlé, Jean-Philippe Ballas et Olivier Pouls. L'équipée sauvage revient demain 16h.